Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Fréquence Diagonale. Alors, sur cet épisode, on reçoit Jérôme Moufra. Salut Jérôme.
Salut Stéphane.
Alors, on te reçoit dans cet épisode de Fréquence Diagonale, c'est pour parler du jeu d'échecs et de l'éducation. Et alors, particulièrement d'ailleurs de l'éducation nationale, hein, pas seulement de l'éducation au sens large aussi, bien sûr. Parce que tu es un acteur, tu fais partie t'es un des monsieur échecs, monsieur jeu d'échecs de l'éducation nationale, puisque tu vas nous le raconter. Tu es professeur déjà à la base, et bien sûr joueur d'échecs, et ça on en parlera plus dans la deuxième partie. Mais alors déjà, comment s'est fait la découverte un peu du jeu d'échecs dans l'éducation nationale? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'historique de ça?
Bah, c'est une longue histoire et je vais essayer de la résumer. C'est une découverte qui n'est pas récente en soi, hein, puisque dès les années 20, on perçoit, et même avant, l'idée que le jeu d'échecs pourrait avoir un impact sur la société et bah, qui plus est sur les jeunes gens. Donc on se dit finalement que la pratique du jeu d'échecs a peut-être des vertus, ce qui est quand même assez spécial puisque tu n'as pas spécialement d'autres jeux dont on pense qu'il a des vertus. En tout cas, il y a peu de jeux qui ont réussi à communiquer sur ce sujet autant que le jeu d'échecs et qui ont essayé d'étayer, puisque ça fait 70 ans, 80 ans qu'on essaye d'étayer cette idée que le jeu d'échecs, eh bien, améliorerait les performances, permettrait de plus réfléchir, de mieux réfléchir, de se concentrer, etc., etc. Donc la première étude, elle date des années 20 et elle est russe. Tu sais, c'est l'étude de Runnick et deux autres chercheurs qui disent que les échecs permettent de se concentrer mieux, etc. Okay. Et puis il faut attendre vraiment les années 60-70 pour que les premières expérimentations fassent état d'une amélioration des résultats des élèves qui pratiquent le jeu d'échecs. Mais ce sont à chaque fois des études qui sont très empiriques et puis qui sont faites par des joueurs d'échecs, ce qui constitue quand même un petit peu leur point faible, parce qu'il y a un manque d'objectivité, même, je dirais, fortuit de la part de gens qui mènent une étude alors qu'ils sont eux-mêmes convaincus du résultat.
Oui, bien sûr, tout à fait. Ça, c'est le problème du biais scientifique concernant toute étude. Il faut faire attention, bien sûr, à ne pas avoir un conflit d'intérêt aussi, bien sûr. Voilà, parce qu'on peut te suspecter d'avoir trafiqué les résultats. Ouais.
Bien sûr, et sans aller jusque-là, je pense que la bienveillance d'un enseignant vis-à-vis de sa propre activité le pousse à trouver des résultats ou à dire que l'élève s'est amélioré. Et puis, finalement, ce qu'on dit aussi beaucoup de scientifiques, parmi les plus reconnus en neurosciences, ils disent, en définitive, oui, les échecs, les enfants qui pratiquent les échecs, ils sont meilleurs en classe parce qu'ils sont plus impliqués. Mais s'ils avaient fait du macramé ou s'ils avaient fait de la musique, ça aurait été la même chose, puisqu'ils auraient été plus impliqués et donc plus intéressés par ce qui se passait en classe, etc., etc. Donc, en fait, toute activité serait propre à développer la concentration, à développer des compétences spécifiques. Mais comme disent certains joueurs d'échecs aussi à raison, si les échecs ne sont pas plus mauvais que la musique, bah pourquoi pas les échecs à l'école, justement.
Oui, bien sûr. Oui. Mais il y a aussi je crois que depuis, il y a eu aussi des études scientifiques plus contrôlées, plus objectives, avec des doctorats à la clé, qui ont semblé aussi aller dans le sens d'une mesure de développement de capacités spécifiques que tu disais. Alors il y a la concentration, mais aussi la résolution de problèmes et la capacité d'analyse, quoi.
Bien sûr, je pense que tu fais allusion à l'étude de Michel Noir, qui est bien connue. Je ferai remarquer par parenthèse que Michel Noir est un très bon joueur d'échecs, donc je pense qu'il avait aussi un a priori.
Oui, mais il est
sur le jeu d'échecs. On peut pas faire l'économie de cette analyse. Moi-même, qui suis un joueur d'échecs, quand je parle du jeu d'échecs à l'école, je suis pas complètement objectif. Donc son étude, il l'a faite sérieusement. Hein. C'est quand même une thèse de doctorat qu'il a présentée.
Il met
en regard deux groupes, un groupe de joueurs et un groupe de non-joueurs, et on constate que le groupe des joueurs, eh bien, a des résultats supérieurs, notamment en termes de résolution de problèmes, comme tu l'as souligné. Ce qui n'est pas complètement étonnant. Le jeu d'échecs est un jeu de résolution de problèmes, c'est un jeu où on formule des hypothèses, où on vient les infirmer ou les confirmer par les résultats pratiques de l'expérience. Donc en définitive, ça nous semble, nous, évident, ça semble peu évident peut-être au grand public, mais en tout cas, il est vrai que le jeu d'échecs fait réfléchir, ça c'est évident, et qui fait se poser des questions sur des problèmes concrets. qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément l'équivalent en classe. Donc c'est en ça que c'est un outil intéressant. Mais ça pose, et là, jusque-là, l'histoire du jeu d'échecs à l'école, elle s'orientait autour de savoir si bon, bah, ces analyses, ces études étaient justes ou pas. Maintenant, la question est plus ou moins tranchée. Tous les acteurs de l'éducation nationale au plus haut niveau considèrent que le jeu d'échecs ne peut avoir que des aspects positifs, que des impacts positifs sur les élèves.
D'accord. Alors, à noter quand même que cette thèse de Michel Noir, comme tu disais, c'est une thèse. Donc, en fait, il n'était pas seul à la valider puisqu'il a un directeur de thèse. C'est le principe des thèses. On la fait jamais tout seul. On est encadré justement par des scientifiques qui ont plus d'expérience et qui sont déjà eux-mêmes d'ailleurs docteurs. Hein, c'est ça le principe. Donc il y a une objectivité plus grande, même s'il était joueur d'échecs, bon, ça lui permettait de mieux connaître le sujet, bien sûr, mais il pouvait pas, dans une thèse, on peut pas écrire ce qu'on veut, je veux dire, on est sous l'emprise à la fois d'un directeur et puis d'un jury. Il y a un jury de thèse aussi derrière, hein, donc voilà, tout ça c'est fait que c'est pas une étude qui s'est faite en l'air. Alors, c'est quoi la date de cette étude? C'est quoi la date, puisqu'on parle d'historique?
La date de cette étude, c'était dans les années 90, là, la date m'échappe un peu, mais bah, c'est dans les années 90, c'est assez récent, en tout cas.
D'accord. Et donc, alors... Et quand c'est que l'éducation, alors, commence à, disons, reconnaître ça officiellement, en fait
En France, en tout cas, l'histoire, encore une fois, n'est pas récente, puisque dès la fin des années 60 et début des années 70, à l'est de la France, à Strasbourg, pour citer la ville en tant que telle, eh bien, tu as des recteurs, le recteur de l'Académie de Strasbourg en 78, qui soutient explicitement l'utilisation du jeu d'échecs pour la pédagogie, hein, sur le plan de formation. Il incite même à des formations d'enseignants au jeu d'échecs, aussi bien dans l'enseignement primaire que secondaire. Donc il y avait bien sûr, hein, le Strasbourg est proche de l'Allemagne, et il y a une culture du jeu en Allemagne qui est pas la même qu'en France, mais c'est à noter, je dirais qu'un des points de départ du jeu d'échecs à l'école en France, c'est l'Alsace.
D'accord. Et donc ensuite, alors
Ensuite, à partir dans les années 80, il y a eu le développement de beaucoup d'activités périscolaires, et beaucoup d'activités périscolaires ont été des ateliers de jeux d'échecs, notamment dans les ateliers bleus à Paris. Il y a eu une véritable explosion dans les années 80-90 de ces ateliers périscolaires pour les élèves.
D'accord. Et alors après, on arrive aux années 2000. Alors, alors d'abord, en 99, c'est pas l'éducation, mais ou en 2000 même, c'est la reconnaissance du jeu d'échecs comme sport par le ministère des Sports.
Oui.
Alors ça, c'est important aussi, parce que ça va aussi lui donner une dimension supplémentaire. Alors ça, c'est sous la présidence de Jean-Claude Loubatière, très grand président de fédération, puisqu'il a été président de 89, je crois, 1989 jusqu'à plus soif. je crois qu'il est décédé alors qu'il était président encore. Hein,
oui, oui.
Jean-Claude. Donc Jean-Claude Batière, très grand président de la fédération jusqu'à 2004. Voilà, j'ai les dates sous les yeux. Et il a fait reconnaître, c'est un de ses grands apports. Il a pas fait que ça. Il a fait énormément de choses, hein, puisqu'il a structuré les clubs en France. Il a fait énormément de choses. Et donc en 2000, il est reconnu comme sport. Et après, donc il y a qu'est-ce qui se passe après dans les années 2000, quoi?
Première conséquence, c'est si les échecs sont un sport, on peut considérer qu'ils devraient être enseignés au même titre que le football, le handball ou le tennis ou le rugby. C'est un axe de développement qui pouvait être suivi par la fédération, puisque au titre du sport, il n'y avait pas de raison qu'on ne l'enseigne pas, comme la natation par exemple. Bon, évidemment, les mentalités sont longues à faire évoluer. Tu sais que les échecs sont un sport, mais un sport un peu particulier, puisque c'est un sport qu'on appellera un sport de l'esprit. Donc à ce titre, c'est quelque chose de peu évident, et je peux te dire qu'à l'interne, dans l'éducation nationale, il sera difficile de convaincre les enseignants de sport que le jeu d'échecs est un sport en tant que tel.